100% entrepreneur.
Confidence d'un parcours.
Ils vous disent tout sur We Do Biz.
Chers amis auditeurs, bonjour, Benoît Duchâtelet, ravi de vous retrouver pour cette émission des Hommes Clés. Je reçois aujourd'hui avec plaisir Annie Oragini, bonjour.
Bonjour, merci bonjour, de Annie. Recevoir.
C'est un plaisir. Cédric Rosemont, bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Nous allons parler aujourd'hui évidemment du principe de l'émission des Hommes Clés, des moments clés qui ont jalonné votre parcours et des projets clés que vous pouvez avoir, de profiter de ces retours d'expérience. Annie avec un profil d'ingénieur, les mines à Saint-Étienne, une expérience à l'étranger à Dubaï, une aventure entrepreneuriale, oui. Plein de projets. Cédric, vous pilotez une société de service qui fait de la location de véhicules de prestige. Vous avez également goûté à d'autres aventures entrepreneuriales. Je vous donne d'abord la parole, si vous avez la gentillesse, de nous présenter un peu plus en détail et de revenir sur ces points.
Donc, je suis le gérant de la société Americar Prestige, qui, comme son nom l'indique, une société de location de véhicules de prestige créée en 2007. L'idée première était de proposer une gamme de véhicules non disponibles à l'époque sur le marché, à savoir le haut de gamme des véhicules américains.
Ça, c'était l'idée initiale.
Ça, c'était l'idée initiale, en fait.
Par rapport au fait que c'est une prestation qui n'existait pas sur le marché.
Voilà, parce qu'il faut savoir qu'à Paris, le marché de la location de véhicules de prestige est très concurrentiel. Il y a énormément d'acteurs. Et donc, mon but était de proposer, en plus d'un service de qualité supérieure, oui. Des produits nouveaux que personne ne proposait à l'époque.
Et bravo. Donc ça a été fait.
Voilà.
Et c'est ce qui. Mais vous veniez pas de l'univers automobile. Qu'est-ce qui
pas
vous a motivé
tout.
Pour cette.
Passionné par l'automobile depuis tout jeune. Oui. J'avais une autre passion qui était l'informatique. Donc j'ai fait des études d'informatique.
Ce sont vos premières armes, ça. Oui.
Tout à fait. Donc j'ai commencé par un BTS informatique de gestion, puis un cycle ingénieur au CNAM que j'ai fait donc en cours du soir.
Gadzar.
Voilà.
D'accord. Alors, c'est métier.
Tout à fait. Et en 2006 exactement. J'étais dans une phase de ma vie où je me posais des questions en me demandant si c'était vraiment ce que je voulais faire parce que je commençais un peu à tourner en rond dans l'informatique, je me sentais un peu limité par le salarial en fait.
Ouais.
Donc il fallait rester dans sa case, ne pas faire plus que ce qu'on nous demandait tout simplement.
Ça arrive de temps en temps.
Ouais. Et ça me frustrait de plus en plus. Donc j'avais une réelle envie de créer une entreprise tout simplement. Et logiquement, tout naturellement, la passion d'automobile est revenue. Et je me suis demandé quoi faire. J'avais pas envie d'être vendeur d'automobile, j'avais pas envie d'être mécanicien, donc j'ai réfléchi, et l'idée est venue naturellement, en fait, de par mes voyages à l'étranger, où j'allais souvent aux États-Unis avec mes amis, et là-bas, on louait pas mal de véhicules américains, donc des Mustangs, des Corvettes, des choses comme ça, et en rentrant sur Paris, je me disais à chaque fois, mais c'est dommage, on peut tout louer ici, sauf des véhicules américains. Donc l'idée est partie de là et puis...
Un constat grâce au voyage, un bon sens de la chose et finalement se prendre en main en disant il n'y a qu'à le faire.
Voilà, exactement. J'avais la chance d'être chez mes parents encore à l'époque, donc charge financière en moins.
Annie, tout à l'heure je parlais de Saint-Étienne. Est-ce que vous avez la gentillesse de vous présenter également en détail?
Donc l'histoire de Saint-Étienne, ça a commencé pour moi en 2003, lorsque j'intégrais cette école d'ingénieur. Je savais pas encore trop ce que j'allais faire. À l'époque, j'étais plutôt attiré par les domaines de la finance. Donc j'ai choisi tous les modules qui avaient de près ou de loin un rapport à la finance. Parmi ces modules-là, il y avait la finance pure et dure, donc ce que sans doute les traders font, du black and scholes, etc., des choses très techniques, très mathématiques. Et il y avait la finance d'entreprise. Et c'est là où j'ai en fait compris que voilà, c'est ce qui vraiment m'intéressait. C'est que si on veut faire de la finance, il ne s'agit pas de voir des chiffres ou des choses assez techniques, mais de vraiment comprendre l'outil industriel ou l'outil économique qu'il y a derrière toute société qui va produire ces chiffres-là et qui vont se retrouver ensuite en bourse. Donc c'est de là le goût de l'entrepreneuriat, le goût de comprendre comment une société fonctionne, qui m'a donné ce goût-là pour la création et la gestion d'entreprise.
D'accord, donc c'est l'arrivée par les chiffres qui vous a donné le sens.
Absolument.
Ensuite de la chose, de la vie de l'entreprise.
Voilà.
Ce qui, d'une certaine manière, manque assez souvent en termes de culture générale à certains entrepreneurs à qui manque cette fibre financière, mathématique, pour assurer une qualité de gestion et un sens de survie. Donc voilà pourquoi la finance et ensuite une découverte d'expérience.
Donc à partir de ce moment-là, je me suis complètement axé sur la finance d'entreprise et la gestion. C'est là où j'ai commencé à rechercher à l'époque un stage. Il fallait absolument trouver un stage. J'ai découvert à ce moment-là le métier de capital risque. Et c'est là où j'ai fait mon stage de dernière année à la Société Générale en asset management, dont la cellule capital risque de la Société Générale. D'accord. Donc là, il s'agissait en fait d'étudier des dossiers de NTIC, de sociétés technologiques et informatiques, dans lesquelles le fonds décidait d'investir ou pas. Ce sont essentiellement des startups. Ça allait de l'amorçage jusqu'au capital développement dans ce fonds-là.
Donc ça permettait d'avoir un œil sur les coulisses, la compréhension de comment une banque analyse, comment une banque investit. Et,
absolument.
Et du coup, l'entrepreneur que vous pouviez être et vous cherchiez à être,
je pense que c'est
avec
là
double
où il
langage.
Est, voilà, c'est là où il est définitivement né. Je connaissais pas encore ce métier-là, j'étais pas encore sûr de ce que je voulais faire. Et c'est là où j'ai découvert, à force de rencontrer des entrepreneurs, de les prendre en entretien. Forcément, à cette époque-là, j'étais pas seul, j'étais accompagné de mes chefs de stage et chargés d'investissement. C'est là où j'ai compris l'intérêt de ce métier-là et j'ai eu le goût d'entreprendre et je m'en suis fait une idée que ça arriverait un jour pour moi.
Oui, ça effectivement, on comprend bien. Cédric, retour d'expérience sur le moment où il faut se poser les questions de chiffres, de lancement, de comment se financer. Quelles ont été vos expériences en la matière ?
Début très difficile.
Parce que la voiture, il faut l'acheter.
La première, en tout cas. J'avais la chance d'avoir dans mon réseau pas mal d'amis qui faisaient déjà de la location. Donc, j'ai pu bénéficier de leur parc en fait, existant
oui.
dans un premier temps. Mais bien entendu, il faut montrer patte blanche pour rentrer dans un milieu. Et j'ai dû financer un premier véhicule. Donc, naturellement, je me suis tourné vers ma banque, chez laquelle j'avais un compte depuis 1999.
Oui.
Donc, il m'a refusé non seulement l'ouverture du compte de la société sans demande de prêt, puisque je souhaitais domicilier l'entreprise dans un centre de domiciliation au début.
Oui.
Et pour eux, c'était pas possible.
Oui.
Il y avait un problème de confiance. Apparemment, beaucoup d'arnaques seraient parties de sociétés créées dans les centres de domiciliation. Bon, j'ai trouvé ça bizarre, étant donné que j'étais client chez eux depuis 1999 et que j'habitais juste au-dessus de l'agence. Donc, je n'ai pas cherché à en savoir plus. Je me suis tourné vers une autre banque qui était juste à côté.
Ça paraît toujours étonnant, mais certains retours d'expérience font que les banques sont contentes d'avoir de nouveaux clients, ne sont pas très opérationnelles. Il faudra qu'on puisse faire des éclairages, d'ailleurs, sur ces questions-là avec des retours d'expérience de banquiers qui nous expliquent pourquoi, de temps en temps, voilà, nos entrepreneurs se retrouvent avec cette frustration qui est de dire « j'avais une relation de confiance, c'était naturel qu'ils me suivent ». Et voilà ce que vous dites à l'instant.
Tout à fait. Donc ensuite, pour le premier véhicule, j'ai naturellement fait une demande de prêt auprès de cette banque qui a été refusée dans un premier temps. Ensuite, on m'a dirigé vers Paris Initiative, qui s'occupe en fait d'octroyer des aides, des financements à taux réduit, voire taux zéro, aux entreprises qui se lancent. Donc, il y a un dossier assez fourni, enfin assez garni à fournir. Puis ensuite, il y a un jury, il y a une délibération. Malheureusement, mon dossier a été refusé parce que pour eux, ils estimaient que passer de l'informatique à l'automobile, c'était un peu hasardeux et c'était risqué. Donc j'ai dû me débrouiller tout seul. Donc avec mes économies et puis l'aide de quelques amis, j'ai réussi à acheter mon premier véhicule.
Donc bonne école, c'est-à-dire que se soumettre d'abord aux structures existantes pour soi-disant accompagner les entrepreneurs, les premiers refus, la déception, l'énergie que ça demande après pour rebondir. Et vous voilà avec du coup un premier véhicule, un second, des marchés qui tombent. Une envie de croissance sur laquelle on reviendra et qui fait que demain est très ouvert maintenant. Vous voyez, lancé et autonome. Et Annie, par rapport au point que nous abordions sur l'arrivée dans le monde de l'entreprise par les mathématiques, par la finance d'entreprise, ça vous permet aujourd'hui, dans une idée de se projeter, les projets clés de l'homme clé pour vous, quels sont-ils ?
Alors aujourd'hui, je suis 100% concentré sur ma boîte que je n'ai pas créée, que j'ai rencontrée lors de mon travail dans un fonds d'investissement. Donc cette boîte-là était en pleine croissance, cherchait à lever des fonds. J'ai rejoint cette boîte-là, on a levé des fonds ensemble. Et maintenant, on se développe sur le marché de la média façade. Donc c'est une société qui a développé certaines technologies et qui aujourd'hui installe partout dans le monde des écrans vidéo.
Donc, oui, installation dans le monde, c'est-à-dire que c'est une société basée en France, parisienne, oui, mais avec finalement une activité complètement tournée vers l'étranger.
Absolument.
Qui vous a vous-même emmené à voyager.
Absolument. J'ai rejoint cette boîte il y a 4 ans maintenant. Il y a 3 ans, en 2009, mi-2009, je suis parti en expatriation 2 ans à Dubaï, là où j'ai eu l'occasion de structurer, créer la filiale de Dubaï et un bureau de représentation à Riyad, en Arabie Saoudite. Je suis revenu après à Paris de nouveau au siège pour m'occuper de l'implantation au Royaume-Uni.
D'accord, donc sans en être propriétaire de cette société, vous avez mis les mains dans le cambouis avec...
Alors aujourd'hui, mon statut, il y a un intéressement au capital. Oui. Je ne suis pas fondateur, je suis uniquement salarié. Alors le plus ancien salarié, parce qu'à l'époque, il y avait juste 2 fondateurs. Donc
Mais salarié touche à tout en termes de compétences que demande souvent l'entrepreneuriat.
Absolument, en termes d'implication aujourd'hui, je travaille sur des problématiques de trésorerie, de capital, de gestion de relations avec les banques, etc.
Bon, ce qui est effectivement cohérent avec votre parcours et du coup passionnant. Ces 2 années à Dubaï, vous avez ouvert un bureau à Riyad, vous nous le disiez.
Aussi, oui.
Reprenez quelques exemples parce que le marché est souvent à l'étranger. Qu'est-ce que ça pourrait être en France, illustré sur notre architecture parisienne, par exemple? Il va y avoir des travaux, je sais, sur les façades de la place de la Concorde. Donc ça pourrait s'illustrer comment un produit comme le vôtre?
Alors aujourd'hui, on a effectivement... une seule référence, clairement, en France. Il s'agit de la tour Monoprix sur le périphérique parisien,
oui.
L'animation de couleur rouge qu'on voit sur la façade. C'est très différent de ce qu'on fait à l'étranger. À l'étranger, on va être sur vraiment des écrans vidéo, proprement dit, vraiment, on a l'impression d'avoir sur la façade vitrée d'un immeuble un écran vidéo en transparence. C'est-à-dire qu'une fois éteint, on a l'aspect vitré d'une façade normale,
oui,
et on est capable, en allumant, d'afficher une vidéo qui va être affichée sur cette surface vitrée, et on pourra afficher un match de foot, de la publicité, la météo, le trafic, n'importe quel type de contenu vidéo.
D'accord, donc en même temps une touche non plus futuriste parce que c'est tout à fait d'actualité, mais une modernité dans l'outil qui n'existe, qui n'est pas très développée en France. C'est-à-dire qu'en France, si vous avez un marché à 40 000 euros, à l'étranger, c'est 4 millions. Donc,
absolument, oui.
C'est cette proportion...
Alors en France, on a des discussions aujourd'hui, on discute avec certains acteurs au niveau de la défense, parce qu'évidemment, il nous faut une surface vitrée pour pouvoir avoir l'impact et de toutes les façons pour pouvoir intégrer notre technologie. Mais c'est vrai qu'en France, on a pas mal de... un certain conservatisme au niveau des habitudes, au niveau de l'architecture, au niveau des contraintes réglementaires. Donc aujourd'hui, en France, il y a très très peu de ce qu'on appelle des billboards. Vous partez au Royaume-Uni, à Londres, il y a 5 ans, il n'y avait absolument rien en termes d'affichage digital outdoor. Aujourd'hui, vous avez une centaine d'écrans qui sont développés à Londres même.
Oui, oui, puis on a en tête les Times Square, on a en tête Hong Kong,
absolument,
on a en tête Tokyo, et c'est vrai que Haussmann ne semble pas se lier avec...
Non, ça ne se prête pas du tout à ce type d'application.
Pour autant, on a la défense, et pour autant, il y a des opportunités pour demain.
On espère qu'elles vont se concrétiser assez rapidement, oui.
Bon, je l'espère effectivement pour vous, parce que c'est une entreprise française qui ne vit qu'à l'étranger, ça va être un très bon sujet pour d'autres de nos chroniques WeDoBiz, mais
en termes de balance commerciale,
mais
oui,
en termes de balance commerciale, on souhaiterait quand même qu'on puisse s'enorgueillir d'avoir ce savoir-faire sur notre territoire. Cédric, les projets clés dans un axe où on se forge à la force du poignet, on se développe, les marchés sont là, je le disais tout à l'heure, vous avez envie de quoi pour demain?
Pour demain, donc, le gros du développement actuel est la partie de location avec chauffeur. Donc, c'est initialement, je faisais de la location de véhicules de prestige sans chauffeur.
Oui.
Parce qu'il faut savoir qu'en France, la location avec chauffeur est réglementée. Donc, il faut une licence. Il faut que la société ait une licence. Il faut que les chauffeurs aient des permis spécifiques.
Comparer ça avec d'autres pays, c'est-à-dire quels exemples vous avez en tête où ça se passe plus simplement
aux États-Unis, par exemple.
Où la location avec chauffeur ne leur fait pas rentrer dans une contrainte réglementaire spécifique.
Tout à fait.
D'accord. Donc ça se fait plus naturellement, et donc vous ne le proposiez pas au départ, et vous l'intégrez maintenant dans votre palette de services.
Maintenant, ça fait 2 ans un an et demi que la société a sa licence,
oui,
mais c'est quasiment une nouvelle activité en fait. Là, on a de la ressource humaine à gérer, oui, on a des plannings autrement plus serrés, plus délicats à gérer que pour la location de véhicules sans chauffeur. Et les clients ne sont pas les mêmes. Donc là, on travaille de plus en plus avec les hôtels. Donc c'est le client numéro un. On demande beaucoup de véhicules pour faire des transferts d'aéroports, des transferts d'un point A à un point B, ou alors pour des mariages.
Oui, c'est-à-dire qu'en gros, ce que vous voulez aussi éviter dans ces univers de location de véhicules de prestige, c'est le client qui a envie de faire un aller-retour sur les Champs-Élysées et de prendre trois photos. Vous avez, vous, une gamme de clientèle et des projets beaucoup plus haut de gamme, avec une fidélisation de personnel qui cherche un parc justement pour des accompagnements de VIP, pour des locations. Quels sont les univers de vos clients aujourd'hui ?
Bah, pour la location avec chauffeur, vous voulez dire ?
Pour la location avec chauffeur, ou les marchés qui, sur lesquels vous êtes bien implanté et ceux que vous visez ?
D'accord. Donc, bah, les marchés dans lesquels on est le mieux implanté sont ceux qui correspondent aux clients dont la location de ces véhicules n'est pas quelque chose d'éphémère. C'est vraiment pour eux quelque chose de quotidien. C'est une façon de vivre. C'est quelque chose qu'ils font... pour les clients étrangers chez eux dans leur pays et qu'ils souhaitent reproduire à Paris, parce que Monsieur X, chez lui à Dubaï, roule avec une Rolls-Royce Phantom tous les jours. Quand il arrive sur Paris, il a besoin du même confort, du même standing, donc on est à même de lui proposer un niveau équivalent.
Un niveau équivalent, et c'est finalement aussi un des savoir-faire de la France que de savoir être constante dans le luxe et être d'avoir un rayonnement international. Et grâce à vous, ceux qui viennent en France retrouvent une base arrière familière parce que vous leur mettez à disposition une qualité de service.
En essayant.
C'est l'idée première. Bon, bah, bravo. Annie, par rapport à ce parcours et à vos projets, donc... beaucoup de choses restent possibles dans le développement de votre parcours. Je disais à Cédric, je lui demandais ce dont il avait envie. Vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour demain ?
Du temps. J'aimerais bien que mes journées fassent 48 heures au lieu de 24. Il y a pas mal de pain sur la planche actuellement.
Oui, c'est un vrai marché, ça. Oui,
oui. Oui, c'est... Non, ce qu'on peut me souhaiter aujourd'hui, c'est la concrétisation de certaines étapes clés. Comme aujourd'hui, je pense à un marché. On a notamment dans les tuyaux ce qui devrait être pour longtemps la plus grande média façade du monde. Un projet, là, on parle quand même quelque chose comme 20-25 millions.
Oui, c'est ce qu'on appelle un projet clé, oui.
Voilà. Donc, voilà. Si vous pouvez me souhaiter quelque chose, c'est d'obtenir ce projet-là.
Bon, avec grand plaisir.
Avec ça, je serai tranquille pour l'avenir de personnel et celui de CityLED.
De la société. Bon, ben, un grand merci Annie, merci Cédric Rosemont également pour cette présentation. Nous avons fait le tour sur deux parcours d'hommes clés. Nous vous retrouvons très prochainement à l'antenne pour cette émission des hommes clés. Merci beaucoup, chers amis auditeurs, à très bientôt.
Merci.
Merci.